Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 24 avril. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal Les Sports Europe Voice, avec l'élection présidentielle en France, la dernière ligne droite ce dimanche. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et les grands titres de ce 24 avril, les principaux partis font campagne le dimanche de Pâques orthodoxe avec des promesses de dépenses. L'Ukraine s'engage à reprendre le territoire perdu lorsqu'elle aura suffisamment d'armes de ses alliés occidentaux. En France, jour de vote ce dimanche pour choisir le nouveau président. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays était prêt à reprendre tout territoire occupé dès qu'il obtiendrait des quantités suffisantes d'armes de ses alliés occidentaux. Le président rencontrera ce dimanche le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour déterminer les détails de la livraison des armes promises par l'Amérique. Il a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse tenue dans une gare souterraine de Kiev que l'Ukraine était convaincue de regagner du terrain une fois ses armes arrivées.
Everywhere they break through, everything they, God forbid, occupy, we will get everything back. And it's not a matter of 10 or 20 years, and not an 8-year war like the one we've had since 2014. It is a matter of us having the weapons. As soon as we get them in sufficient numbers, believe me, we will be returning any occupied territory immediately.
Pendant ce temps, l'Ukraine dit qu'elle arrêtera les pourparlers avec la Russie si des personnes sont blessées à Mariupol et si des référendums sont organisés dans les territoires occupés. Les Nations Unies estiment qu'au moins 2435 civils ont été tués et 2946 personnes blessées en Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février dernier. Mais le chiffre réel serait bien plus élevé. Et pour la Pâque orthodoxe ce week-end, il n'y a pas de trêve. Reportage de Stéphane Suwan pour RFI.
En ce week-end de Pâques orthodoxe, pas de trêve en Ukraine, où les bombardements se sont poursuivis notamment à Kharkiv et Odessa. Un contexte qui a fortement pesé sur la tonalité de la conférence de presse de Volodymyr Zelensky, qui s'est montré non seulement combatif, mais a laissé poindre de la colère et une forte émotion. D'abord, le président ukrainien a indiqué que ce dimanche, à Kiev, il discuterait avec les secrétaires d'État et à la défense américains, Anthony Blinken et Lloyd Austin, au programme de nouvelles livraisons de pièces d'artillerie de gros calibre, la seule façon selon Zelensky pour reprendre à l'armée russe les territoires envahis depuis 2 mois. Volodymyr Zelensky a également admis qu'un déblocage du siège de Mariupol par des moyens militaires était impossible à ce stade et il a condamné les initiatives de la Russie alors que le Kremlin souhaite mettre en place dans la région de Kherson un référendum pour établir une république populaire similaire à celle de Donetsk et de Lugansk. Enfin, le chef d'État ukrainien, au bord des larmes, a évoqué le bombardement d'Odessa ce samedi qui a fait 8 morts, dont une jeune maman de 28 ans et sa fille de 3 mois. Il a traité les Russes de « salauds », je cite, condamnant des actions similaires à celles d'il y a 80 ans en Europe.
Le principal organisme d'enquête de l'État russe a déclaré qu'il examinait un rapport des médias russes alléguant que des experts en sabotage des forces spéciales SES du Royaume-Uni avaient été déployés dans l'ouest de l'Ukraine. L'agence de presse russe RIA Novosti a cité une source de sécurité russe disant qu'une vingtaine de membres du SES avaient été envoyés dans la région de Lviv. Dans un communiqué, la commission d'enquête a déclaré qu'elle donnerait suite au rapport qui leur avait été envoyé pour aider les services spéciaux ukrainiens à organiser le sabotage sur le territoire ukrainien. Un porte-parole du ministère britannique de la Défense s'est refusé à tout commentaire. Le Special Air Service est une force militaire d'élite formée pour mener des opérations spéciales de surveillance et de lutte contre le terrorisme. En Australie, le Premier ministre a recommencé à faire campagne après avoir assisté à un service religieux à Sydney pour marquer la Pâque orthodoxe. Scott Morrison s'est adressé au service, disant à la congrégation que c'était une période, je cite, de grand espoir.
A time of overcoming, a time of looking forward to the future with confidence. I want to thank you for your faith. I want to thank you for your great sense of community, faith and community that has sustained our country over these past many difficult years.
Et de retour sur la campagne électorale, le Premier ministre a parlé de ne pas introduire de nouvelles taxes. Les travaillistes ont lancé des plans pour prendre des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales. Les responsables des deux partis se rendent à Darwin ce dimanche pour assister à la cérémonie marquant Anzac Day, demain 25 avril à l'aube. Un groupe de médecins s'est joint à l'appel pour que les soins dentaires soient rajoutés au système Medicare. Le Parti des Verts a déjà fait pression pour que les soins dentaires soient rendus accessibles dans le cadre de Medicare. L'Australian Doctors Reform Society a maintenant rejoint cette campagne. Le porte-parole de la société, le Dr Robert Marr, a déclaré que de nombreux Australiens souffrent et certains meurent même car ils n'ont pas les moyens de se faire soigner les dents. Il a déclaré sur SBS News que de nombreuses personnes ne réalisent pas à quel point les soins dentaires sont importants pour la santé globale.
It's one of the things that even as doctors we're only coming to fully realize now. I mean, there's even association between dental germs in the mouth and heart attacks. So, you know, dental care is a vital missing link in the Medicare system.
Les résidents qui nettoient après les inondations dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland sont invités à porter un équipement de protection pour minimiser le risque d'exposition à l'amiante. Le Cancer Council affirme qu'il est possible que l'amiante, qui était couramment utilisé dans la construction entre les années 40 et les années 80, soit présente dans certains bâtiments et maisons. L'expert en santé publique, le professeur Tim Driscoll, a déclaré sur SBS News que l'exposition à l'amiante peut causer des maladies des années plus tard. Il dit que la forte recommandation est que les gens fassent appel à des professionnels pour l'évaluation et le retrait de l'amiante, mais qu'il y a encore des mesures qu'ils peuvent prendre s'ils ne sont pas en mesure, c'est-à-dire de porter des masques P2 et N95.
The best thing in that situation, or best two things, are to wet the material and to wear a mask. And the sort of mask I'm talking about there is the one that type we've been recommended in COVID-19, not the ordinary surgical mask, but the P2 or N95 masks.
La Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria ont enregistré ce week-end plus de 18 000 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 10 décès, alors que le bilan national depuis le début de la pandémie approche les 7 000 morts. Près de 42 000 nouveaux cas de coronavirus et 44 décès ont été signalés à travers le pays hier samedi. Il y a encore plus de 370 000 cas actifs de COVID-19 dans tout le pays, avec plus de 3 000 patients hospitalisés et environ 130 d'entre eux en soins intensifs. Au moins 12 personnes sont mortes et 10 autres sont toujours portées disparues après le naufrage de plusieurs bateaux transportant des migrants à travers la Méditerranée vers l'Europe. Selon des responsables de la sécurité, 4 bateaux transportant 120 migrants ont coulé au large des côtes tunisiennes en Afrique du Nord, les survivants ayant été secourus au large de la ville de Sfax sur la côte est. Dans un autre incident, un enfant est mort et plus de 40 personnes ont été secourues après le naufrage de leur bateau au large de la ville portuaire de Tripoli, au nord du Liban. La Croix-Rouge libanaise a déclaré qu'il y avait environ 60 personnes à bord et qu'elle avait envoyé plus d'une douzaine d'ambulances sur les lieux. Le second tour de la présidentielle en France, c'est ce dimanche avec le vote en Outre-mer qui a déjà débuté, comme nous l'explique Pierre Olivier pour RFI.
C'est l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon au large du Canada qui a été le premier des territoires ultramarins à voter samedi dès la mi-journée. Le coup d'envoi pour le second tour a également été donné dans les Antilles et en Guyane. Décalage horaire oblige, ce sont ensuite les territoires situés dans le Pacifique et l'océan Indien qui seront appelés à se prononcer. C'est également le cas pendant environ 24 heures selon le fuseau horaire pour les Français installés dans un pays étranger. En métropole, les bureaux de vote ouvriront à 8h dimanche et jusqu'à 19h ou 20h dans les grandes villes comme Paris. Au total, ce sont près de 48,7 millions d'inscrits sur les listes électorales qui pourront se prononcer. Jusqu'au résultat proclamé dimanche à 20h, aucune interview, sondage ou estimation de résultat ne peut être publiée.
La chaîne Arte propose ce dimanche soir un film tourné et diffusé en direct pour ce second tour. Ce film s'appelle « Jour de gloire ». Précision de Sophie Pouzera pour RFI.
Deux frères que la politique oppose se retrouvent le soir du deuxième tour. Le scénario est simple et d'actualité, mais c'est surtout le tournage qui est un défi. Un long plan séquence d'une heure où les deux personnages, incarnés par Félix Moati et Julien Campani, découvriront en direct le résultat de l'élection présidentielle. L'événement n'est pas choisi au hasard, Florent Péfer, coproducteur du film.
Pour nous, c'était important que ce film ait lieu à ce moment-là pour marquer vraiment ce moment aussi comme un souvenir, comme un document historique peut-être, en tout cas on l'espère. Sur cette élection présidentielle, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'on a une date et une heure précise. C'est-à-dire qu'on sait qu'à 20h00, il va se passer quelque chose.
Autant dire que le timing règne en maître sur ce projet, car les personnages doivent arriver devant la télévision pile au moment où le nom du futur chef d'État sera dévoilé. L'opération n'est pas sans risque. François Pécheux, deuxième coproducteur de Jour de Gloire.
Alors les risques, si on commence à les lister, il y en a 20 000. Bon voilà, on a pensé à peu près à tout, au tonnerre, à la pluie, aux manifestations, aux cris, aux moteurs, aux klaxons. On pense à peu près à tout ça, on sécurise. Quoi qu'il arrive, on va au bout du film et on raconte l'histoire.
Une histoire réalisée par Jeanne Fréquel et Cosme Castro, qui songent déjà à réitérer l'expérience lors d'autres événements publics, comme les Jeux Olympiques ou le Festival de Cannes.
En Belgique, un rassemblement hier pour soutenir Julian Assange suite à la décision britannique d'autoriser son extradition vers les États-Unis. Le reportage de Pierre Benazé pour RFI.
Sa liberté, c'est notre liberté. La guerre commence par les mensonges. Les slogans sont nombreux devant le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles pour les manifestants rassemblés autour de photos de Julian Assange bâillonnés d'un drapeau américain. Birgit est venue d'Aix-la-Chapelle dans un autocar affrété pour l'occasion.
Si quelqu'un comme Julian Assange peut être persécuté seulement pour avoir publié des crimes de guerre, alors ça sera un modèle pour tous les États qui ne veulent pas qu'on voit leurs crimes.
Mathias est venu de Paris avec un panneau qui réclame l'asile politique en France pour Julian Assange.
La mobilisation est en train de grossir, de plus en plus de gens vont être informés et par le bon sens moral vont réagir et peut-être que Julian Assange sera libéré un jour. Autrement, je pense qu'il restera un symbole, un martyr. Et ça, c'est déjà pas mal.
Pour certains, l'optimisme est encore possible. C'est le cas d'Annie, venue de Beauvais pour soutenir le fondateur de Wikileaks.
Si Julian est extradé, si vraiment ils vont jusqu'au bout de leur cochonnerie, ça veut dire qu'on n'aura plus droit à la formation. Non, et Julian doit sortir. Julian, c'est un héros.
Et tous demandent une mobilisation politique de l'Union européenne et des gouvernements contre la persécution de Julian Assange.
Et on revient sur la guerre en Ukraine avec l'huile de tournesol qui va être rationnée en Europe. Précision de Justine Fontaine pour RFI.
Des rayons d'huile végétale vides, c'est ce qu'observent certains consommateurs français et européens dans leurs supermarchés ces dernières semaines. Pour éviter que les clients fassent des stocks, des magasins Lidl en France, par exemple, limitent les achats à 3 bouteilles d'huile de tournesol par personne. Le même scénario se répète en Espagne ou encore en Belgique. Car si avant la guerre, l'Ukraine assurait la moitié de la production mondiale d'huile de tournesol, désormais ses ports commerciaux sont bloqués et les exportations par la route. Plus grands exportateurs d'huile de tournesol a imposé des quotas et des taxes pour les ventes à l'étranger. Enfin, la guerre risque de diminuer de moitié les récoltes en Ukraine cette année, d'après le ministre de l'Agriculture ukrainien. Dans ce contexte d'incertitude, les prix de l'huile de tournesol ont augmenté de 20 à 25% environ en France et au Royaume-Uni. Des hausses qui concernent aussi par ricochet d'autres huiles et créent des tensions, comme en Indonésie par exemple, qui a suspendu vendredi ses exportations d'huile de palme après des manifestations contre la hausse des prix.
Et on passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 29 degrés. Adélaïde, 26. Melbourne, 19. Hobart, 19 également. Canberra, 20. Sydney, 23. Brisbane, 25. Cairns, 29. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 21 degrés. Un rappel des grands titres de ce 24 avril. Les principaux partis font campagne ce dimanche de Pâques orthodoxe avec des promesses de défense. En France, jour de vote ce dimanche pour choisir le nouveau président. C'est la fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot, la Ligue 1 en France. Le Paris Saint-Germain est champion pour la 10e fois de son histoire après le match nul, un but partout contre Lens. Éric Mamrut et Martin Guez pour RFI.
Un point et puis c'est tout donc pour le Paris Saint-Germain. Encore une fois, sans grand panache ce soir on peut dire Martin.
Oui vraiment, un point c'est tout. Nous avons un champion Éric mais c'est tout sauf une sensation dans un match étrange, une saison sans grand relief. Voilà, une rencontre plutôt à l'image de ce qu'a proposé le PSG cette année, assez inconstant, capable de petites accélérations, mais qui n'a pas tenu la longueur encore une fois ce soir face à de très vaillants Lensois. Une première période quasiment anecdotique ce soir. Quelques occasions pour Kylian Mbappé, le chouchou du public qui a été bien lancé, mais qui a toujours frappé au-dessus. 0-0 à la mi-temps. Des sifflets sont tombés quand même des travées du Parc des Princes. En deuxième, c'était un petit peu mieux. On a eu une frappe cadrée, signé Mbappé, lui, toujours. Et puis un carton rouge pour ces vaillants Lensois, je le disais, Kevin Danseau, qui reçoit un deuxième jaune un peu avant l'heure de jeu sur un tac sur Neymar. Ça a permis de décanter un petit peu la situation. Seule l'étincelle de la soirée, elle était signée du cocardier Lionel Messi, qui a tiré sa spéciale, une frappe du gauche dans la lucarne des 20 mètres. Ça a permis aux techniciens du PSG de ne pas avoir installé ces feux derrière les buts pour rien. C'est la seule fois du match qu'ils ont pu tirer cette espèce de dispositif pyrotechnique prévu pour le sacre. Voilà, on jouait la 70e minute, un très beau but signé Messi. On s'était dit voilà, Paris va tout de même l'emporter face à ces Lensois à 10, mais que nenni mon ami. Corentin Jean à la 88e, Corentin Jean, pas un immense joueur, voilà, qui récolte quelques minutes de par-ci par-là, un ancien de Troyes, un ancien de Monaco. Bah, il était à la conclusion d'un contre, il a marqué un par partout entre ces Parisiens et ces Lensois. On l'a dit, un point c'est tout. Ça a suffi pour passer dans un trou de souris pour ce vieux matou rabougri qui était le PSG ce soir et qui a surtout ronronné, qui s'est contenté donc de ce petit résultat.
Et puis une polémique sur l'arbitrage d'un match de foot en France. Explication de Philippe Le Caplin pour RFI.
Polémique. Stéphanie Frappard, première femme désignée pour arbitrer la finale de la Coupe de France qui opposera Nantes à Nice et ce sera le 7 mai prochain. Eh bien, le choix de Stéphanie Frappard ne plaît pas à tout le monde.
Et pas du tout, même à certains supporters niçois qui s'estiment régulièrement lésés par les décisions de Stéphanie Frappard. Une pétition a même été lancée pour réclamer la désignation d'un autre arbitre, une démarche que ne soutient pas l'entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier.
Je considère qu'elle fait partie des meilleurs arbitres du championnat. On a eu des désaccords, le match de Strasbourg, le match de Brest, mais déjà si elle a été nommée pour arbitrer, c'est que tout le monde lui fait confiance sur cette capacité à tenir un match. Une finale, c'est un match très particulier, donc la fédération considère qu'elle est capable de tenir ce match-là et j'en suis convaincu. Et je ne suis pas, moi, un entraîneur qui n'aime pas Stéphanie Frappard. Je ne pense pas qu'on ait fait un choix politique pour mettre une femme, une dame. La décision elle a été prise par rapport à un choix purement professionnel.
En Angleterre, la 34e journée marquée par la victoire de Manchester City, le leader, contre Watford, 5 buts à 1. Et puis toujours en Angleterre, Paul Pogba blessé. Est-ce la fin pour lui à Manchester United? La réponse avec Hugo Moissonnier pour RFI.
Ce devait être un retour fracassant. En 2016, Paul Pogba quitte la Juventus pour retrouver Manchester United, un club qui ne misait pas sur lui quelques années plus tôt. Pour les frappes, les dribbles et le panache du français, les Red Devils s'alignent plus de 100 millions d'euros. Le longiligne milieu aux cheveux décolorés devient le footballeur le plus cher de l'histoire. En 2017, Pogba soulève une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue anglaise, deux trophées mineurs, les seuls de sa deuxième aventure anglaise. Manchester United est malade. L'entraîneur José Mourinho n'est pas tendre avec les joueurs spectaculaires mais irréguliers et par la suite les sursauts de Pogba sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer sont trop rares. Des finales perdues, des deuxièmes places en première ligue, une présence dont l'équipe type du championnat en 2019 ne pèse pas lourd. Le français est même pris en grippe par ses propres supporters pour l'une de ses dernières apparitions en rouge contre Norwich le week-end dernier. Des fans qui doivent se pincer lorsqu'ils voient Pogba avec le maillot de son pays. Cadre de l'équipe de France championne du monde en 2018, le joueur, aujourd'hui âgé de 29 ans, ne déçoit que très rarement en bleu.
En Espagne, avec la finale de la Coupe du Roi, un match nul à la fin du temps réglementaire entre Betis Séville et Valence, un but partout. Mais c'est Betis Séville qui gagne au tir au but 5 à 4. On passe en Allemagne avec le Bayern de Munich, premier au classement, qui a battu le Borussia Dortmund 3 buts à 1. C'est le 32e titre pour les Bavarois, comme nous l'explique Julien Messochier avec Eric Mamrut pour RFI.
Alors c'était le choc de la 31e journée, d'autant plus que ce classiqueur opposait les deux premiers de la Bundesliga. Et en cas de victoire, le Bayern, qui comptait 9 points d'avance sur le Borussia, pouvait s'assurer le titre. Mission accomplie donc, avec, on peut le dire, donc une victoire nette et sans bavure.
Oui, alors que le BVB avait pourtant bien démarré, hein, malgré l'absence de 11 joueurs, entre autres Kobel dans les buts, Hummels ou encore Witzel. Ça n'a pas empêché les jaunes et noirs de presser haut dès l'entame de match, mais un peu comme d'habitude dans ce classiqueur depuis pas mal d'années, le Bayern a marqué sur sa première vraie opportunité. C'était à la 15e minute sur un corner. Serge Gnabry contrôle le ballon de la cuisse à l'entrée de la surface et reprend de volée imparable et surtout une superbe réalisation. Derrière, le BVB a eu beaucoup de mal et a encaissé logiquement un second but par Lewandowski après un ballon perdu par le français Zagadou. 2-0 à la mi-temps sans aucun tir pour un Dortmund très décevant, d'autant qu'ils n'avaient rien à perdre ce soir, hein, que eux qui sont déjà assurés d'une qualification en Ligue des Champions. Après le pénalty réussi en début de seconde mi-temps par Emre Can, Dortmund a eu la possibilité par deux fois de revenir à 2-2, notamment via Haaland. Mais derrière, Jamal Musiala entré en jeu a plié l'affaire. Et à voir, hein, Eric, les joueurs fêtaient ce titre sur la pelouse avec, bien sûr, les traditionnelles douches à la bière dans une très, très belle ambiance. On se dit que oui, malgré l'écrasante domination du Bayern, on a quand même vécu une soirée historique.
Ce Bayern donc sacré pour la 10e fois d'affilée, mais une équipe bavaroise peut-être moins flamboyante cette saison Bundesliga.
Là, vous avez raison, hein, le Bayern a eu des gros trous d'air cette saison. Mais encore une fois, il ne faudrait pas banaliser ce que vient de réaliser cette équipe. Un 10e titre d'affilée, c'est tout simplement inédit parmi les 5 grands championnats européens. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur aussi avec Lewandowski et 33 réalisations ce soir. Alors oui, le début de championnat était plus que poussif, mais le Bayern est leader depuis la 5e journée de cette Bundesliga. 4 défaites au compteur, on peut se dire que c'est trop pour le Bayern, mais c'est surtout cette claque reçue à Mönchengladbach en coupe qui fait plus que tâche, un 5-0, d'ailleurs toujours pas digéré. Et Julian Nagelsmann, qui fête ce soir son premier titre à 34 ans seulement, le sait bien. Il faudra faire encore plus l'année prochaine, car un seul titre, même celui de champion, eh bien, ça ne suffit pas au Bayern.
En Afrique, le vote pour la présidence de la Fédération ivoirienne de foot, et c'est si Idriss Diallo qui a été élu. Didier Drogba n'a pas réussi, il a chuté dès le premier tour, comme nous l'explique Yoann Gourlet au micro d'Éric Mamrut pour RFI.
Didier Drogba battu, donc le vainqueur c'est Yacine Idriss Diallo, qui est forcément moins connu.
Oui, c'est un homme d'affaires, il a 61 ans, il est vice-président du club abidjanais de l'AFAD, il est ancien vice-président de la FIF, c'est donc un homme du système, expérimenté, il a su rassembler autour de son programme, écrit avec les présidents de club dans le but de rassembler, avant, dit-il, de développer le football local. Il était perçu comme le candidat le moins clivant des trois, il l'emporte au second tour avec donc 63 voix contre 61 pour Sori Diabaté. Sori Diabaté, c'est l'ancien vice-président de la fédération aussi qui a, pour certains, payé son rôle au sein de l'équipe sortante, hein, une équipe qui était pointée du doigt pour sa mauvaise gestion. En début de soirée, Yacine Idriss Diallo était déjà arrivé en tête au premier tour avec 46% des suffrages contre 39% pour Diabaté. Et la tendance allait déjà dans le sens de Diallo dans la journée, puisque l'élection d'un de ses proches avait été actée, celle de Pierre Gondeau, à la commission gouvernance audit et conformité. Les proches de Diallo, comme Bonaventure Kalou, l'ancien attaquant du PSG, semblait rassuré et confiant pour la suite, et il a eu raison. Et lors de son discours de victoire, Yacine Idriss Diallo a notamment salué son mentor, le conseiller de la CAF, Jacques Hanouma, avec qui il a travaillé à la FIF dans les années 2000.
On passe au tennis avec la finale du tournoi de Stuttgart. On parle des dames, et ce sera entre Sabalenka, la Biélorusse, et Świątek, la Polonaise. À Belgrade, la finale sera disputée entre le Serbe Novak Djokovic et le Russe Rublev. On ne connaît pas encore l'affiche de la finale du tournoi de Barcelone, les demi-finales interrompues à cause de la pluie. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. Et bientôt 32 minutes sur les ondes de Radio SBS. À Sydney, le Ramadan est devenu un festival de street food et l'un des quartiers populaires de l'ouest de Sydney, la Kemba, a des airs de festival gastronomique. Reportage de notre collègue Grégory Pless.
Come and try the best gnaf in ABC, la Kemba, have a look with the magic cheese. Come and try the best gnaf in ABC. Oh my god, have a look with the magic cheese.
C'est tout juste l'heure de la rupture du jeûne et il y a déjà beaucoup de monde dans les rues de la Kemba, ce quartier de Sydney où plus de 60% de la population est musulmane. Mais devant les stands, qui pour les uns servent du knafé, cette pâtisserie orientale à base de fromage, ou pour les autres des brochettes de poulet tikka, on croise des gens de toutes les origines et de toutes les religions, y compris des Français, à l'image d'Olivier, venu de Nouvelle-Calédonie passer quelques jours de vacances à Sydney. Et l'ambiance du quartier lui a tellement plu qu'il y revient pour la deuxième fois.
On est déjà venu il y a 3 jours et on revient pour toutes ces festivités. toute cette nourriture. C'est vraiment bien, la nourriture, l'ambiance, c'est top.
Ce soir, Olivier a choisi de manger indien et comme la plupart des visiteurs, il va tenter de trouver un coin pour s'asseoir. Faute de banc, la plupart des gens déjà servis se contentent en effet d'un bout de trottoir. C'est le cas par exemple de Luis, originaire de Barcelone mais établi à Sydney depuis 5 ans. L'ambiance de ce marché de nuit ne lui est pas totalement étrangère.
Ça me rappelle beaucoup à l'Espagne, toute la fête populaire qu'il y a, surtout dans l'été, où on passe toute la journée à la rue, il y a des activités partout, du street food, c'est génial, j'aime bien.
Si les odeurs d'épices d'Asie ou du Moyen-Orient flottent sur Halden Street, le stand qui de très loin attire le plus de monde sert une spécialité qui, elle, est typiquement australienne. Gavin et sa famille sont venus ce soir spécialement pour la goûter.
We're here for the famous camel burgers, but I've heard so much about it, and hence why we're here. So definitely going to be worth the wait, and I think I'll be ordering maybe, I don't know, 4 for myself. Right? I don't want to wait in line again.
Ce marché de nuit mis en place à l'occasion du Ramadan rencontre un succès grandissant. C'est ce qu'assure Bilal El Ayek, il est maire adjoint de la commune.
Initially, we planned to close the road on Friday, Saturday, Sunday, but with the event growing very quickly, we had now the option for safety reasons that we shut the road 7 days a week. So this will be shut for the whole month.
Le conseil municipal de Canterbury Bankston apporte en effet un soutien important à l'événement. D'abord en piétonnisant la rue, mais aussi en mobilisant du personnel, comme des policiers ou des éboueurs. Au total, c'est un investissement de plus de 700 000 dollars pour la mairie, mais totalement justifié, d'après Bilal El Ayek.
This is a huge event for the local community. We estimate this will bring in roughly about $5 million for the local economy only. People, businesses, shop owners, restaurants, they've been doing it very tough for the last couple of years because of COVID. And as you can see, this is now the biggest we've ever had. I've never seen something like this in my life.
Ce marché de nuit du Ramadan, qui n'a pas pu avoir lieu les deux dernières années en raison de la pandémie, pourrait cette année battre tous les records de fréquentation. Alors qu'en 2019, il avait attiré 250 000 personnes au cours du mois, la mairie pense cette année que le cap du million de visiteurs sera atteint. Et puis si vous aussi vous êtes tenté par cette expérience gastronomique, sachez que ce marché de nuit du Ramadan à la Kemba se tiendra jusqu'à la fin de ce mois sacré pour les musulmans, c'est-à-dire le 2 mai prochain.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Est-ce qu'on peut parler de la campagne en elle-même jusqu'à présent? On sent qu'Emmanuel Macron occupe énormément plus le terrain que Marine Le Pen. On sent que lui, il va au contact des Français. Et je ne fais pas l'apologie d'Emmanuel Macron du tout ici, c'est que c'est une réalité. C'est qu'en fait, dans la semaine, il était à Saint-Denis. Il va dans des territoires qui sont aussi pas forcément, qui n'ont pas forcément voté pour lui au premier tour. Hein, quand il était à Saint-Denis, c'est les territoires de Jean-Luc Mélenchon. On sent qu'il y a cette envie d'aller au contact pour aller chercher chaque voix des Français qui n'ont pas voté pour lui. Marine Le Pen apprend une autre tactique. C'est peut-être ce qu'elle faisait avant. Là, elle essaie de prendre peut-être un rôle un peu plus grand. Est-ce qu'on voit vraiment, est-ce qu'on aura vu dans cette campagne vraiment deux oppositions de style? Parce que Marine Le Pen faisait énormément de contacts au premier tour. Elle n'en fait quasiment plus aucun au second tour.
On a eu, Christophe, déjà un président candidat qui s'est déclaré tardivement. Donc qui officiellement n'a pas fait campagne jusqu'à quelques semaines avant le premier tour, ça c'est le premier élément. Et puis il n'y a pas eu de débat d'avant premier tour avec Emmanuel Macron. Alors c'était aussi le cas de président précédent. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, Christophe, c'est que effectivement la différence entre l'avant premier tour et là, c'est que Emmanuel Macron, il doit impérativement aller chercher, mais comme Marine Le Pen, mais peut-être encore plus Emmanuel Macron, ces voix de l'extrême gauche. Parce que peut-être contrairement à des voix de gauche ou de droite où il y a un report naturel finalement sur le candidat Macron, il y a quand même une grande incertitude sur un tiers des votes du premier tour qui sont allés pour les extrêmes gauches. Je mets dedans Jean-Luc Mélenchon, Poutou, Artaud, et je mets même dedans Fabien Roussel. Il y a une vraie incertitude sur ces votes-là. Et encore une fois, on est passé d'un système, je crois qu'on l'avait dit au précédent numéro d'Europa House, on est passé d'un système finalement à deux parties, à un éclatement complet, à trois parties, où après le premier tour, on a trois grands blocs. C'est-à-dire qu'on a un bloc de droite, centre-droite, avec Emmanuel Macron, si on ajoute les voix de Pécresse. On a un bloc d'extrême droite avec Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Zemmour, et on a un bloc vraiment de gauche, extrême gauche, slash écologiste. Et donc, ce tiers des voix, il va compter. Donc, Emmanuel Macron ne fait pas seulement le job d'aller chercher les voix des abstentionnistes et donc d'aller dans des territoires des fois peut-être un peu conquis, il doit aussi aller sur des territoires qui lui sont plutôt hostiles, d'où la raison de ses déplacements en Seine-Saint-Denis. Et puis pour Marine Le Pen, finalement, elle a effectivement fait beaucoup plus campagne au premier tour, avant le premier tour, et puis là, elle s'est quand même, Christophe, accordé quelques bains de foule, mais vous avez raison, plus dans des territoires qui lui sont conquis. Peut-être qu'elle a aussi envie d'avoir une image plus rassembleuse et ne voulait pas être chahutée dans cette entre-deux tours. Elle doit quand même chercher une image un peu plus polissée, et donc ça peut expliquer aussi une certaine frilosité dans les derniers déplacements de Marine Le Pen.
Alors, on sait que la campagne se termine officiellement samedi. Nous, en Australie, on a encore le droit d'en parler. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement, honnêtement, dimanche, au moment de l'élection? Parce que, bon, les sondages peuvent très bien mentir, mais on sent que ça s'est quand même très nettement resserré par rapport à il y a 5 ans.
Alors, deux éléments pour moi, Christophe, importants, c'est effectivement, bon, bah les sondages, ça reste des sondages, ça reste des photographies à un instant T, et puis on l'a vu à plusieurs reprises, donc pas une méfiance, mais en tout cas, voilà, prendre les sondages avec des pincettes qui donnent des photographies à un instant T. Moi, ce qui me semble plus important, comme deuxième élément, Christophe, c'est pas la photographie à l'instant T, c'est l'évolution. C'est quand même l'évolution depuis 20 ans. En 2002, on avait un rapport de force. Si je schématise un peu, on avait un rapport de force parti classique, démocratique, extrême droite, qui était de 80-20. En 2017, on avait un rapport de force qui était de 66-34. 66, Emmanuel Macron au second tour, 34% Marine Le Pen au second tour. Aujourd'hui, si on prend les sondages, alors encore une fois, ça reste des sondages, ça reste une photographie à un instant T, on a un rapport de force qui est plutôt de 55-45. Donc il y a quand même une vraie percée des idées populistes, des idées d'extrême droite. En France, sur 20 ans, on passe de 80-20 à 55-45. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que la France n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que cette montée des populismes, des partis d'extrême droite, elle se vérifie à l'échelle européenne. D'ailleurs, pas forcément, pas que en Europe de l'Est, elle se vérifie aussi, et là, on retourne dans nos souliers d'Europa Voice, en Europe de l'Ouest, on avait parlé... l'Allemagne, de la résurgence des partis d'extrême droite, d'un premier député, je crois que c'était au Bundestag. Enfin, vous voyez, c'est aussi vérifié à travers l'Europe. Et donc, pour moi, ces deux éléments-là, l'évolution du contexte français de cette extrême droite qui monte, de ces idées qui s'imposent, et de l'autre côté, le fait qu'à l'échelle européenne, y a aussi une tendance, fait que je ne sais pas, personne ne sait aujourd'hui qui va gagner, mais il y a une vraie incertitude et l'élection n'est pas gagnée. Et puis, peut-être la deuxième chose, en plus de cette montée de l'extrême droite, c'est qu'en fait, on le dit souvent, il y a un troisième tour de l'élection présidentielle, Christophe, que sont les élections législatives. Moi, je serais aussi très intéressé de voir, à ce moment-là, le nombre de candidats d'extrême droite, que ce soit Rassemblement National ou que ce soit Reconquête, le parti d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal Le Pen, qui vient d'être élue au bureau exécutif, je crois, vice-présidente, je serais curieux de savoir le nombre de députés Rassemblement National et Reconquête qui seront élus lors de ce troisième tour, et donc comment ça va peser sur une assemblée qui sera forcément, Christophe, moins support, en tout cas, pour Emmanuel Macron. Il aura moins de députés, il y aura quand même une moindre vague, ça c'est évident, macroniste à ce moment-là. Donc il lui faudra quand même trouver des alliances, et ben ces alliances, elles seront plus compliquées à trouver parce qu'elles se feront naturellement absolument ni avec les extrêmes gauches, ni avec les extrêmes droites. Et encore, rappelons-le, extrême gauche plus extrême droite après ce premier tour, c'est 2/3, Christophe, c'est 66% des votes en France. Et c'est un vrai changement, ça. C'est énorme.
Vous parlez de la législative, et c'est très important d'en parler, parce qu'on a vraiment déjà un œil dessus. Jean Castex a déjà dit qu'il resterait Premier ministre au cas où Marine Le Pen serait élue, en tout cas jusqu'au bout de son mandat, qui est le mandat lié à l'élection législative. Est-ce que vous croyez que vraiment... la campagne des législatives a déjà vraiment commencé quand on pense à la France insoumise, quand on pense au rôle que tous ces autres petits partis vont pouvoir avoir à jouer. Est-ce que ça, c'est déjà parti en arrière-plan? Est-ce que c'est déjà commencé?
Alors, ce qui est sûr, Christophe, c'est que dans les écuries, dans les coulisses, ça a déjà commencé. On sait que Nicolas Sarkozy, qui a ouvertement soutenu Emmanuel Macron, et qui avait surtout ouvertement pas soutenu Valérie Pécresse pour ce premier tour, est déjà en train d'organiser le soutien d'une soixantaine de députés LR qui accepteraient de participer à une majorité dans des circonscriptions avec La République En Marche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des circonscriptions où un candidat LR se présenterait, il n'y aurait pas d'opposition La République En Marche. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà quand même un jeu en coulisses pour avoir ces alliances-là. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est que sous ces airs de boutade de Jean-Luc Mélenchon, qui affirme que il veut être Premier ministre, que ce soit sous Emmanuel Macron, que ce soit sous Marine Le Pen, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de motiver ses troupes pour aller voter aux élections législatives, parce qu'il sait qu'encore une fois, s'il arrive à reporter, pas forcément l'intégralité, mais même une vingtaine de pourcents, s'il transforme 20% de ses votes en vote pour les législatives, vous imaginez combien un groupe d'extrême gauche LFI avec 100 députés. 20%, c'est à peu près 100 députés. Donc, à droite, ça s'active pour les alliances avec La République En Marche. À l'extrême gauche, ça s'active pour vraiment peser sur la prochaine législature. Et puis à l'extrême droite, le troisième bloc de ces élections, ça s'active aussi du côté de Reconquête, où on sait qu'il va y avoir des candidatures. La question, c'est de savoir est-ce que Reconquête et le Rassemblement National feront équipe ensemble pour les législatives. Ça, c'est encore une incertitude. Mais non, je crois que le troisième tour de cette élection présidentielle, avant même que le deuxième tour n'ait eu lieu, a déjà commencé.
Absolument. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Et en rappel des grands titres de ce 24 avril, les principaux partis font campagne ce dimanche de Pâques orthodoxe avec des promesses de dépenses. L'Ukraine s'engage à reprendre le territoire perdu lorsqu'elle aura suffisamment d'armes de ses alliés occidentaux. En France, jour de vote ce dimanche pour choisir le nouveau président. Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi prochain à partir de 13h sur les ondes SBS French. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcasts sur sbs.com.au/french. Très belle fin d'après-midi, à très bientôt, belle journée.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.